Dimanche dernier, les amis, nous avons presque touché le ciel avec les témoignages de nos deux baptisés. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons toucher le fond. La page d'évangile que nous allons lire et méditer va nous plonger dans une vraie descente aux enfers, un vrai désert. D'abord parce que l'évangile ne nous raconte pas des histoires à l'eau de rose. Il nous raconte la vie telle qu'elle est. Mais qu'on soit tout en haut, avec les joies intenses, les grandes avancées de la vie, qu'on soit tout en bas, au fond de nos impasses, au plus chaud de nos déserts, eh bien, il y a une constante. La présence du Christ, toujours, partout. Je vous invite à découvrir ou à retrouver une rencontre de Jésus avec l'homme riche. Elle est racontée par trois évangiles, ce qui est une marque d'importance théologique. Quand vous voyez comme ça un récit qui est transmis par les trois évangiles synoptiques, ou les quatre. Mais avant de lire la version de Marc, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Quels sont les critères pour dire qu'un tel a réussi sa vie? Que j'ai raté la mienne? Est-ce que, si j'ai pas, ça commence à dater comme référence au bonheur, mais à la réussite, si j'ai pas une Rolex au poignet à l'âge de 50 ans, ou une résidence secondaire en Dernos. Est-ce que j'ai raté ma vie? Certains diront que réussir sa vie, c'est vivre en harmonie avec la nature, avec les autres, avec sa conscience. Mais peu importe. Dans tous les cas, réussir dépend de ce que nous allons faire de cette vie. Parce qu'il existe un dogme universel qui inspire toute société, toute vie professionnelle, vie affective, et qui dit quelque chose de très simple. Nous sommes ce que nous faisons. Et notre époque rend un culte à la performance. Il faut être proactif. Productif. Il faut être productif au travail, en famille, à l'école, à l'église, en vacances, au lit. Partout, il faut des perfs. Il faut être performant. Mais si les gens perdent leur équilibre dans notre société, si les gens perdent leur santé psychologique, s'ils perdent le sens même de leur vie, c'est à cause de cet endoctrinement à la doctrine du fer. Nous sommes plus que jamais revenus à l'âge du fer. Le « je suis ce que je fais » est un dogme aussi vieux que le monde. Et c'est lui d'ailleurs qui va conduire les pas d'un certain homme riche jusqu'à Jésus. Nous avons déjà médité ensemble il y a quelque temps ce passage, mais quelque chose ou quelqu'un m'a poussé à y revenir aujourd'hui. Autrement. On va lire d'ailleurs le récit de Marc 10, mais par petits bouts. Comme il se mettait en chemin à Jésus, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La vie éternelle pour cet homme, à cette époque-là, eh bien, ça peut être défini comme la vie glorieuse, la vie qui a du poids. En hébreu, la gloire, c'est le poids. C'est, autrement dit, la vie approuvée et récompensée par Dieu. Et toute la question est, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir cette vie-là, la vie approuvée et récompensée? Et Jésus lui dit, pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Cet homme veut connaître le programme pour gagner la vie éternelle. Eh bien, Jésus va lui donner le programme. Un programme où il y a des trucs à cocher, puisque c'est son truc à lui. Tu ne tueras pas, coché. On pourrait d'ailleurs à chaque fois lever la main, si vous voulez. Celui-là, ça va à peu près. Bon. tu ne mentiras pas, coché. Mais quand même, ce n'est pas n'importe quel mode d'emploi que de la vie éternelle que lui donne Jésus. C'est les 10 commandements. C'est le super mode d'emploi. Mais Jésus n'aura même pas le temps de finir à déballer la liste des 10 choses importantes à faire. L'homme, déçu, un peu énervé, je l'imagine comme ça, lui coupe la parole. « Mais je connais tout ça par cœur, depuis que je suis tout petit !» L'homme n'est pas venu consulter le grand rabbin de Nazareth, le maître de la loi, pour se prendre une petite leçon d'école du samedi. Il veut du lourd, il veut du massif, il est prêt à relever n'importe quel défi. Cet homme, d'ailleurs, est d'une sincérité absolue. La preuve, il s'agenouille devant Jésus. Ce n'est pas juste une formule de politesse. Il veut savoir quoi faire pour avoir la vraie vie, la vie pleine, la vie éternelle. Et Marc, d'ailleurs, est touché par cette scène. Marc est le seul dans les 3 récits à ajouter cette petite mention qui est magnifique. Jésus le regarda et l'aima. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Tu veux qu'on mette la barre plus haut? Ok, pas de problème. Tu veux un super défi qui te mette bien la pression? Tu veux des sensations fortes, une vie extraordinaire? Eh bien, tu vas l'avoir. C'est tout simple. Tu donnes tout. Sois solidaire avec les pauvres. Sois solidaire de moi. Viens à ma suite. Voilà ce que tu vas faire. Résultat, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui explique cette tristesse, ce chagrin? S'en va-t-il parce qu'il ne veut pas renoncer à ses biens? Et il découvre qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions pour la vie éternelle. Ou bien, pourquoi pas, sa tristesse serait celle d'un homme qui a bien pris la décision de tout vendre, de tout solder, de suivre, mais qui réalise que c'est un crève-cœur et à quel point il est attaché à ce qu'il vient de perdre. Ce n'est pas tout de changer de vie, de tout donner, de basculer dans autre chose. Reste à savoir comment on va faire la route ensuite avec une paire de sandales et une chemise, hein ? Ah oui. Ou alors, troisième hypothèse, sa tristesse serait celle du cœur partagé, vous voyez, de l'hésitation, du non-choix. J'aimais ces hypothèses parce que le texte ne donne aucune explication à cette profonde tristesse. Le texte, Marc, constate le chagrin, point. Mais c'est nous qui nous empressons de combler le vide, le silence, et qui ajoutons les réponses. Mais à chaque fois qu'on va avancer une explication à ce chagrin, à cette tristesse, on aboutira toujours à la même conclusion. Quoi que l'on fasse pour obtenir la vie éternelle, quoi que l'on fasse, on finit toujours dans une impasse, suivie d'une profonde tristesse. Pratiquer les 10 commandements à la lettre ne suffit pas, on l'a vu, à remplir votre vie. Tout vendre et suivre, à condition d'y arriver, hein, pas mieux. Toutes ces choses à faire sont des voies sans issue, des sources de déception garanties. Et l'homme riche commence à comprendre que son bonheur, la vie éternelle, n'est pas indexé sur ce qu'il sera capable de faire, sur la réussite, sur la performance, même la performance spirituelle. Croire que l'on est ce que l'on fait est un chemin de désespoir assuré. Voilà ce que vient de comprendre l'homme riche. Et quand on croit qu'on a touché le fond, vous connaissez le petit mot, hein, quand on croit qu'on a touché le fond, eh bien, on découvre qu'il y a encore à creuser, que ce n'est pas encore fini. La descente aux enfers n'est pas encore terminée pour notre homme riche. Il n'est pas encore allé au cœur du désert. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples était effrayé par ces paroles, mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et dit, c'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Vous sentez ici le déplacement ? On vient de passer du cas d'un certain riche, un certain jour, à un certain endroit, à tous les riches, et même à tous les humains. Les disciples qui n'ont pas un sou en poche, hein, parce que bon, voilà, ils sont en sandales et en chemise, ne s'y trompent pas. Ils se sentent eux-mêmes concernés par la parole de Jésus, tout pauvres qu'ils sont. À ce compte-là, qui peut être sauvé ? Au-delà de ce riche, c'est donc de moi qu'il est question. Je suis donc riche, nous sommes tous riches. Quelque chose. La question qui est posée ici est qui peut être sauvé ? C'est la même question que la question du riche tout à l'heure. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? La même. Parce que dans les deux cas, on cherche à connaître les critères qui vont nous qualifier pour entrer dans la vie éternelle. L'accès au salut. Et pour les mettre en œuvre, pour s'activer, si possible. Et la réponse de Jésus à la question de cet accès au salut est celle-ci. Pour les humains, c'est-à-dire pour nous tous, hein, vous êtes humains, moi aussi, bon, on est concernés, c'est impossible. C'est impossible. Il faut donc abandonner l'idée d'accéder au salut par nous-mêmes, ne serait-ce qu'un peu. Alors ça vous paraît évident, bon protestant, hein, la grâce seule nous sauve, oui, mais combien de fois ai-je rencontré des chrétiens ? Combien de fois dans mon cœur ai-je conçu cela ? Des chrétiens qui, sans le dire évidemment, hein, faisaient implicitement de leur fidélité personnelle, de leur morale personnelle, de leur bonne doctrine ecclésiale, ou de la qualité de leur foi, ou que sais-je, de leur engagement social, un passe, une clé pour accéder à la vie éternelle. Pour ces chrétiens-là, un chameau avec un peu de lubrifiant, un trou d'aiguille pas trop étroit, en poussant bien, ça passe. Est-ce qu'on peut entendre la réponse de Jésus ? À tous les humains, c'est impossible. C'est impossible. Pour tous ceux qui pensent être les maîtres de leur réussite, les détenteurs des clés de leur salut, les patrons de leur entreprise de vie, cette parole de Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Elle est une mauvaise nouvelle. Une parole qui fait toucher le fond de l'impasse. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra, dit Jésus. Voilà ce que répondrait Jésus aujourd'hui aux marchands de bonheur, aux coachs en tout genre qui prétendent vous éveiller à la pleine conscience de votre destinée. Impossible. Tous ceux qui s'obstinent à vouloir faire de leur vie une réussite, ils se condamnent eux-mêmes au chagrin, à l'angoisse d'être complètement perdus au bout de leur chemin. C'est impossible. Et nous sommes tous un peu comme ça, un peu perdus sur notre chemin. Je me demande qui est vraiment capable de saisir cette parole de Jésus. C'est impossible aux hommes. Qui ? L'homme riche n'a pas pu la saisir tout de suite, en tout cas, il est reparti tout triste. Les disciples ne semblent pas mieux comprendre cette parole de Jésus. Et nous ? Est-il si sûr que nous soyons toujours du bon côté ? Que nous recevions toujours 5 sur 5 les paroles de Jésus, et en particulier cet impossible ? Aurions-nous encore besoin, frères et sœurs, de conversion ? Nous passons notre temps, nos années à courir dans tous les sens. Bon, je parle pour moi, mais pour d'autres aussi sûrement. Nos années, oui, à courir dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pour nous une façon de vivre notre humanité dans la dignité, dans la responsabilité. On fait des choix, on se réalise. Nous savons cela, on nous l'a appris depuis tout petit, comme le jeune homme riche, comme l'homme riche. Et Jésus vient poser cet impossible ce matin pour chacun de nous, tout ce à quoi tu as employé ta vie ne sert à rien, ne produit rien, ne sauve pas. Et il ajoute quand même une parole qu'il serait dommage de laisser. mais impossible donc aux hommes, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. C'est la dernière étape de notre méditation. Avec Jésus, au fond de chaque impasse, au bout de chaque désert, il se trouve toujours un passage étroit, une sortie possible. Jésus nous dit que le sens, le poids, la valeur de notre vie ne dépendent pas de ce que nous faisons ou de ce que nous avons projeté de faire, mais seulement de ce que Dieu a fait pour nous. Et attention, ce n'est pas un Dieu qui tire du haut du ciel les ficelles de notre destinée. Ce n'est pas un Dieu en surplomb, vous voyez ? Un surplomb qui voudrait de là-haut nous dire qui c'est le patron, qui voudrait nous humilier pour s'attirer toute la gloire à lui seul, hein, en nous disant « t'es pas bon petit, laisse-moi faire ». Non. C'est un Dieu qui vient, qui prend la décision de partager en tout notre condition humaine. Ce n'est pas un Dieu qui juge de loin ou de haut, mais un Dieu qui accepte d'être jugé. Oui, ça c'est rare pour un Dieu. C'est un Dieu qui accepte d'être incompris, d'être mis à mort, ici-bas, par cela même qu'il a aimé. Ce Dieu qui nous dit que le salut est impossible fait pour nous l'impossible. C'est là, dans ce don gratuit, total, absolu, dans ce renoncement, que, oui, Dieu nous sauve. C'est un miracle extraordinaire. C'est dans cette faiblesse assumée que Dieu nous rejoint, qu'il nous sauve en Christ. Et c'est là que se découvre le sens, la valeur ultime, la justification de toute ma vie. Pas ailleurs, là, seulement là, dans ce renversement des mondes. Dieu vient à moi comme je suis, il me rejoint là où j'en suis. À mon impossible de me sauver moi-même, de l'absurde, du chaos, il répond par le possible de son amour inconditionnel. La valeur de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que moi je fais pour toi. Mon frère, ma sœur, voilà le message que j'entends dans cette méditation. On pourrait se demander... Oui, qu'a-t-il fait ? Que fait-il ? Exactement, pour moi. Comme pour l'homme riche, comme pour les disciples. Je crois que, en s'approchant tout près du texte, je vois ce qu'il fait. Il pose simplement son regard sur toi et il te dit « Je t'aime, mon ami ». Je te libère de ce fardeau de devoir te prouver à toi-même et aux autres que tu as de la valeur, que tu es digne d'être aimé. Car pour moi, ta vie n'a pas de prix. Elle est plus précieuse encore que la vie de mon propre fils. Tu peux maintenant avancer sur ton chemin, sans tristesse aucune, libéré, reconnu et aimé.